En ce 8 mai, à Rencontre spirituelle, je compte consacrer toute l'émission à la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, qui a vécu à Québec et dont la vie a été écrite peu de temps après sa mort par le père Paul Ragneau, un jésuite qui l'a très bien connu. C'était paru à Paris en 1671. Dans l'édition originale, le texte est très ancien, un peu difficile à lire au début, mais on s'y habitue et c'est magnifique, très étrange. C'est aussi la fête aujourd'hui de Saint-Pierre de Tarentaise, qui est mort en 1174 et qui était un moine cistercien. Je vous en ai parlé longuement l'an dernier. De même que je vous avais parlé de la bienheureuse Catherine de Saint-Augustin, mais cette fois-ci, je voudrais lui consacrer toute l'émission. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Catherine Simon de Lompré est née à Saint-Sauveur-le-Vicomte, en France, évidemment, le 3 mai 1632. Elle a vécu seulement 16 ans en France. Elle est venue à 16 ans ici, au Québec, où elle a vécu 20 ans, à Québec. L'année de la naissance de Catherine est celle même de la signature, si on se souvient bien, en 1632, du traité de Saint-Germain-en-Laye. On a appris ça au collège, mais on s'en souvient plus des fois. C'est ce traité avec l'Angleterre, Québec et la Nouvelle-France, avait été conquis par les Anglais, les frères Kirk, en 1629. Et par ce traité, en 1632, ils sont restitués à Louis XIII. Alors Champlain, Samuel de Champlain, va pouvoir recommencer son œuvre, et les Jésuites vont reprendre, sur une plus haute échelle, leur travail d'évangélisation. Le père de Catherine, Jacques-Simon de Lompré, est avocat. Sa mère, Françoise de Launay-Jourdan, est la fille d'un lieutenant civil et criminel à Saint-Sauveur-le-Vicomte. C'était le personnage le plus considérable de la ville après le gouverneur. Au foyer des Simon de Lompré, bien Catherine était déjà le troisième enfant, une quatrième devait naître l'année suivante. Tandis que l'aîné, François, n'avait que 4 ans, imaginez. Alors, 4 enfants en 4 ans, c'est beaucoup. Alors, le grand-père maternel, M. de Launay-Jourdan, est un homme qui est très adonné à l'oraison. Un laïc adonné à l'oraison. Un homme important. Il est adonné aussi aux œuvres de charité. Mme de Launay-Jourdan, sa femme, elle, c'est l'alliée par l'un de ses ancêtres. Elle est alliée à Saint Thomas de Canterbury, dont je vous ai déjà parlé. Puis, elle est aussi une femme très vertueuse. Alors, il décide d'adopter Catherine. Les Jésuites exercent alors le ministère à Saint-Sauveur-le-Vicomte, et souvent, l'un d'eux, le père Malherbe, vient voir M. et Mme de Launay, les grands-parents, et les malades qu'ils hospitalisent. Oui, parce que leur maison, la maison des grands-parents, est comme un hôtel-dieu. Et Catherine s'approche de ce prêtre, mais elle le regarde sans rien dire. Elle est intimidée. Et sa grand-mère lui dit, mais parle-lui, n'aie pas peur. Les pères jésuites aiment bien les petits-enfants. Et alors, elle se décide, et sa première question surprend le jésuite. Elle lui dit, mon père, qui est-ce qui fait bien la volonté de Dieu? Une petite fille. Elle est phénoménale. Vous allez voir comme elle est phénoménale, notre bienheureuse. Alors, un instant plus tôt, on a apporté chez la grand-mère un pauvre, bien malade, couvert d'ulcères. Je vous le rappelle, c'est comme un hôpital chez eux. Alors, mon enfant, répondit le jésuite en montrant le malade, il dit, c'est ce pauvre-là qui fait bien la volonté de Dieu, il prend son mal en patience. On fait plus sûrement la volonté de Dieu dans les souffrances que lorsqu'on a tout à souhait. C'est vrai, quand on a tout, on oublie Dieu, on oublie de faire sa volonté. Alors, évidemment, quand on est trop malade aussi, ça peut être trop dur. Il faut faire attention quand on parle de la maladie. Alors, les paroles de ce jésuite font naître en Catherine un étrange désir des souffrances. Elle est toute petite, hein, elle raisonne comme elle peut. et à ce point qu'elle ne pense qu'à souffrir beaucoup afin d'être plus agréable à Dieu. C'est terrible dans un sens, mais c'est charmant aussi, c'est délicat à dire, hein. Alors elle supplie la Sainte Vierge tous les jours de lui envoyer bien des maladies. Oh. C'est un étrange spectacle, cet enfant de 4 ans qui demande à notre Seigneur, à genoux les larmes aux yeux, la grâce de souffrir pour son amour. Elle ajoute toujours pour son amour, heureusement. Heureusement. Ça la sauve un peu, ça. La maison de ses grands-parents est un milieu des plus favorables pour épanouir cet enfant quand même. Elle y reçoit... D'accord, des leçons d'abnégation, puis de charité chrétienne, mais elle reçoit aussi une éducation solide, hein, qui caractérise les gens du grand siècle, comme on dit. Monsieur et Madame Delaunay-Jourdan, qui ont un rang élevé, ils occupent un rang élevé, eh bien, ils se plaisent toujours à recueillir dans leur demeure là, les malades pauvres. Ils les soignent, les pansent, leur plaies eux-mêmes, hein, leur procurent, enfin, toutes sortes de secours, et leur petite fille, Catherine, se familiarise de bonne heure avec le spectacle de la douleur et des misères humaines. Il n'y a pas de doute qu'ils savent aussi lui donner cette instruction, évidemment, là, en rapport avec la position sociale de sa famille, les dons d'intelligence aussi qui brillent dans Catherine dès son plus jeune âge. Sous la direction des Jésuites, elle s'adonne avec ferveur à, on pourrait dire, à se perfectionner, à s'améliorer. Elle suit avec fidélité un règlement de vie. Elle fait une petite méditation, c'est sympathique, à son âge de 7-8 minutes par jour. 7 à 8 minutes. Un demi-quart d'heure, comme elle dit. Le matin, elle fait un examen de conscience tous les jours. Elle reçoit souvent la Sainte Communion. Et dans ces conditions, ben, l'Esprit de Dieu pénètre le jeune cœur de Catherine. Il faut lire d'ailleurs l'acte de donation à la Sainte Vierge qu'elle fait elle-même à l'âge de 10 ans. C'est un acte qu'elle signe de son sang. Vous savez, on faisait ça quand on était jeune, on signait avec notre sang des choses comme ça. Ça a toujours existé, ça, c'est pas spécial. Voici ce qu'elle écrit, je vous en lis une petite partie. Sainte Mère de Dieu, d'autant plus que c'est le mois de Marie. Sainte Mère de Dieu, permettez que je vous prenne pour ma maîtresse et pour ma reine. Je vous le dis, elle a 10 ans. Acceptez-moi pour votre fille et pour votre plus petite servante. Je me donne à vous et souhaite que tous les moments de ma vie vous soient consacrés. Je veux, pour honorer votre conception immaculée, vous offrir le désir que j'ai de me conserver dans une entière pureté toute ma vie. Je veux remercier tous les jours la très sainte et adorable Trinité de toutes les grâces dont elle vous a comblé, le Père de vous avoir choisi pour sa fille, le Fils pour sa mère, et le Saint-Esprit pour son épouse. Permettez, ma très sainte dame et reine, qu'en foi de ce que je viens d'écrire, je le signe, Catherine Simon, votre esclave, servante et fille, et quoi qu'indigne. 10 ans. Étonnant. Il est difficile de ne pas voir encore l'action du Saint-Esprit dans ce triple vœu que Catherine fait, de prendre la Sainte Vierge pour mère, de ne jamais commettre aucun péché mortel et de vivre en perpétuelle chasteté. Catherine est quand même sensible aux attraits du monde. Elle hésite fortement à la pensée de le quitter. Une pensée l'obsède sans cesse, qui la tourmente comme un remords. Mais quoi? Si tu fais mieux et plus parfaitement la volonté de Dieu en religion, hésiteras-tu à y entrer? Comme nous étions habités dans les années 40 par cette idée. Ah oui, c'est la même idée. Un peu disparue aujourd'hui. Alors elle prend une décision. Elle croit prudent de pas en parler à ses parents. Elle leur dit que son projet est d'essayer simplement la vie religieuse, de voir par elle-même ce qu'il en est. Elle est toute jeune. Le 7 octobre 1644, alors Catherine Lompré, Catherine Simon de Lompré, dit adieu à sa famille et à sa ville natale, et en compagnie de sa sœur aînée, elle prend la route de Bayeux. C'est là qu'est la grande tapisserie là, qu'on peut voir quand on passe à Bayeux. Grande tapisserie très ancienne, qui est magnifique. Elle a 12 ans et demi. La petite ville de Bayeux, qui est distante, pas très très distante de Saint-Sauveur, le Vicomte, c'est à 25 lieues, c'est dans le Calvados. Avez-vous déjà vu ça, du Calvados? Oh, c'est fort. C'est à 3000 de la mer, de l'océan. C'est une ville autrefois importante. Elle est restée célèbre par sa cathédrale, qui est un des chefs-d'œuvre de l'art gothique. Hein. La vie de la sœur hospitalière, là où elle se rend, à Bayeux, c'est une vie mixte, ça. C'est sur le modèle de celle que Jésus-Christ a menée ici, parmi nous. Hein. Son idéal, la sœur hospitalière, c'est la vie active et la vie contemplative qui s'harmonisent. Il s'agit de chercher Dieu en toute chose, de l'aimer purement pour lui-même, mais aussi d'assister les frères, les sœurs de Jésus-Christ, avec autant d'affection et de douceur que si elles servaient Jésus-Christ lui-même. En somme, c'est ça le résumé d'une hospitalière accomplie. Et malgré sa jeunesse, Catherine Simon de Lompré est admise au noviciat. Quel âge a-t-elle? 12 ans. 12 ans. Ça va se prolonger, évidemment, pour elle, son noviciat, au-delà de 3 années, parce que l'âge obligatoire pour l'émission des vœux après l'approbation était de 16 ans. Je vous rappelle qu'à cette époque, les femmes se mariaient à 14 ans, à 13 ans. Les garçons se mariaient parfois à 15 ans, 16 ans. C'est un autre monde, hein? Alors, il ne faut pas juger trop vite. Donc, le 24 octobre 1646, à 14 ans, ses espérances sont comblées, elle revêt l'habit religieux. Son cœur surabonde de joie. Catherine de Lompré s'appelle désormais en religion Catherine de Saint-Augustin. Alors, cette jeune novice s'adonne avec ferveur à sa formation religieuse. Elle se considère déjà comme une épouse de Jésus-Christ, à qui elle a donné tout son cœur, tous ses désirs, tous ses amours. Et les épreuves, sont loin d'ébranler son courage. Ça fait que raffermir sa volonté, ça la confirme dans sa vocation. Puis elle dit à sa maîtresse et novice, c'est sympathique ça, « Faites-moi tout ce que vous voudrez. Vous ne montrez point l'habit, vous ne m'ôterez point l'habit, et je ne sortirai point d'ici, si ce n'est pour aller en Canada. » Comment ça se fait qu'elle pense à ça? Ben, c'est évidemment à cause des relations des Jésuites. Hein? Les textes que les Jésuites écrivaient et envoyaient en France étaient lus par tout le monde, ou presque. Alors, sœur Catherine de Saint-Augustin s'est fait des habitudes de prière et de recueillement. Ça lui facilite en religion une union intime avec notre Seigneur. Et cette union, elle l'avait continuelle en toutes choses et partout. Elle se familiarise avec deux pratiques qui sont très recommandées par les maîtres de la vie spirituelle. Ça ressemble au mantra. Alors, je m'excuse d'utiliser ce mot. Mais on appelle ça aussi des oraisons jaculatoires, n'est-ce pas? La première, donc, consiste à lancer fréquemment vers le cœur de Jésus-Christ des oraisons jaculatoires, toutes brûlantes. Hein. Ainsi, c'est très beau, elle lui dit 100 fois le jour, « Mon Jésus, oui, mon Jésus, mon tout, mon amour, vous êtes toute ma joie, toute mon espérance et tout mon bien. » Ou bien, elle lui dit aussi, « Vous m'aimez, ô mon admirable Jésus. » Oui. Je veux que mon cœur vive et meure de votre amour. Elle est toute jeune, elle comprend déjà ces belles choses. Puis l'autre pratique, un second secret de sa perfection, c'est le culte tout particulier qu'elle voue à la Sainte Vierge. Avec les années, son amour bien filial, pour celle qu'elle appelle la Reine des Anges, ne fait qu'augmenter en intensité puis en tendresse. Il s'agit d'imiter les vertus de Marie, c'est son idéal. Elle ne perd pas de vue son modèle, dont elle s'efforce de reproduire les traits en elle. Elle veut revêtir, comme on dit, parfaitement Jésus-Christ. C'est dans saint Paul, ça. Revêtir parfaitement Jésus-Christ. C'est ça son but. C'est pas la Sainte Vierge en soi, c'est Jésus-Christ, Dieu. Si elle va à l'oraison, elle supplie la Sainte Vierge de lui apprendre à prier. Quand elle s'approche de la Sainte Table, elle dit, « Ô Mère, toute d'amour, quand vous receviez le corps de Jésus-Christ, votre divin Fils, que disait votre cœur? » Il y a un beau tableau à la chapelle du Collège de Montréal, comme ça on voit la Sainte Vierge qui reçoit la communion des mains de Saint Jean. C'est très impressionnant. Et en servant les pauvres, elle dit avec quelle humilité ô Sainte Vierge, avec quelle douceur, avec quelle joie avez-vous rempli le même office, la même tâche, si vous voulez. Alors, elle est employée à toutes sortes de choses domestiques, elle balaye le plancher, quoi, etc. Elle tâche de prendre les sentiments intérieurs qui animaient Marie quand elle faisait les mêmes choses à Nazareth. Alors, dans les difficultés, quand elle a de la peine, elle se dit, en de semblables rencontres, le cœur de la Sainte Vierge a été doux, humble, patient. Alors, que le mien soit semblable au vôtre, ô Vierge Sainte. Quand elle a besoin de conseils, c'est toujours à Marie qu'elle recourt avec confiance. Alors, la petite sœur Catherine, habituellement recueillie en Dieu, mène une vie qui est vraiment intérieure. Alors, pour mieux mourir à soi-même, puis pour ne vivre qu'en Dieu, elle veut se donner à la Sainte Vierge d'une manière très parfaite. Elle veut s'attacher enfin à elle par des liens les plus étroits et pour la vie. Et c'est vers la fin de son noviciat, à 15 ans et 11 mois, le jour de l'Annonciation, le 25 mars 1648, là, à la veille de partir pour le Canada, dans le temps même où l'on met plus d'obstacles à son départ pour le Canada, alors voici l'acte par lequel elle constitue la Sainte Vierge, son héritière universelle. Ce texte est d'une telle densité spirituelle, il est inspiré par le Père Jean-Eudes, Saint Jean-Eudes, le mérite d'être cité. D'autant plus encore que c'est le mois de Marie, je vous le dis. Alors, très sainte et immaculée Mère de Dieu. Je, sœur Marie-Catherine de Saint-Augustin, quoique très indigne de votre aimable présence, je vous choisis de tout mon cœur pour mon héritière universelle de tout ce que j'ai fait de bien, dit, pensé, enduré, soit intérieurement, soit extérieurement, spirituellement ou corporellement, tant pour le passé que pour le présent ou l'avenir, ce que je ratifie par cet écrit, comme par donation irrévocable, sans qu'il puisse être cassé ou diminué par aucun autre. Je vous constitue donc encore, ô ma sainte reine et maîtresse, héritière de mon corps, de mon cœur, de mon âme, de ma vie et de ma mort, à laquelle je vous supplie très humblement, ma chère mère et dame, vouloir assister pour avoir soin de ce qui vous appartient en qualité d'héritière. Je vous supplie encore, dans toute l'étendue de mon âme, de présenter à votre cher fils ce pauvre et indigne héritage, afin qu'il daigne, pour l'amour de vous, agréer cette action, et comme votre héritage, l'accepter et le mettre dans le domaine de son infinie bonté et miséricorde. Comme on voit, c'est pour Jésus qu'elle fait ça. Elle continue en disant, « Je m'assure, ma très sainte maîtresse, que si vous me voulez tant favoriser, quoi qu'il soit moindre en valeur et mérite que le denier de la veuve de l'Évangile, il l'acceptera pour un trésor précieux, venant de votre part. J'attends cela de votre faveur, ne rebutez pas, s'il vous plaît, cette pauvre âme pécheresse, la plus méprisable et la plus ingrate de celles qui, par leurs offenses, ont blessé votre très aimé fils et vous. Telle est ma volonté, et en foi de ce qui déçut, je signe, sœur Catherine de Saint-Augustin, fait et passé l'an de notre salut 1648, le 25 mars, jour de la bienheureuse annonciation de la très pure Immaculée Mère de mon Dieu, ma reine, ma dame, ma mère et maîtresse, mon unique espérance et mon tout après son aimable fils, de mon âge, le 15 an passé, elle a 15 ans. Depuis 3 ans, Catherine de Saint-Augustin aspire à passer au pays des croix, comme on dit, au Canada. Le pays des croix. Les hospitalières sont arrivées à Québec depuis 1639 et la duchesse d'Aiguillon, nièce du cardinal Richelieu, a favorisé ce nouvel établissement. Elles sont à la hauteur de la tâche. Une tâche qui est pleine de périls de sacrifices. Ces sœurs-là se dépensent sans compter au service des sauvages, comme on disait à l'époque, des Amérindiens, aussi bien que des Français. Rien n'est au-dessus de leur courage. L'isolement, les privations de tout genre, les mœurs grossières, la malpropreté des enfants, les rigueurs du climat, elles supportent tout, tout joyeusement. Elles se montrent intrépides là devant la mort elle-même. Imaginez, en 1644, le gouverneur, M. de Montmagny, est informé par le père François-Joseph Bressani, dont je vous parlerai un jour, d'une prochaine descente à Québec des Iroquois, dans le but d'enlever les filles blanches. C'est comme ça qu'on appelait les vierges consacrées à Dieu, les filles blanches, à cause des vêtements. Le grand costume, grand voile, des infirmières, des hospitalières. Alors le gouverneur juge à propos de rappeler à Québec, pour les mettre à l'abri du fort, mais les hospitalières sont établies à Sillery. Elles font à M. de Montmagny cette belle réponse, qu'elles aimeraient mieux être brûlées vives que d'abandonner le lit de leurs malades. Après être venues de si loin, disent-elles, pour les soigner, les instruire et les encourager, il leur semble trahir leur vocation si elles ne consomment pas jusqu'au bout là, leur sacrifice. Alors elles conjurent donc le gouvernement de leur permettre de courir les mêmes risques que leurs malades. Et cette réponse est bien propre à séduire Catherine quand elle apprend cela, elle qui est encore en France, et dès l'année 1645, elle exprime à ses supérieurs le désir d'aller au Canada. D'ailleurs, en 1642, il faut se souvenir, René Goupil, né en Anjou, était mort martyr dans l'actuel État de New York. En 1646, il y a Isaac Jogg, les gens de la Lande, qui versent leur sang au même endroit. En 1648, Antoine Daniel a aussi souffert le martyr au pays des Hurons. Ce sont les quatre premiers des huit jésuites à donner leur vie pour le Christ. Alors, en 1647, le père Vimont, on connaît le père Vimont, hein, qui a célébré la première messe à Montréal, qui est retourné en France, il s'occupe de recruter de nouvelles hospitalières. Il frappe à la porte du monastère de Bayeux. C'est lui qui conduit le premier groupe des fondatrices à Québec. C'est lui qui a présidé à leur établissement, qui a béni tour à tour leur hôpital de Sillery en 1640, celui de Québec en 1646. Il les a enfin vus à l'œuvre. Il a été témoin de leurs travaux, puis de leurs souffrances, puis de leur joie. Et la communauté de Bayeux se montre disposée à faire le sacrifice de quelques religieuses. Alors, Catherine s'offre aussitôt. Cette nouvelle jette les parents dans la consternation. Monsieur de Lompré, lui, ne veut absolument pas consentir à son départ, être beaucoup trop jeune. Elle n'a pas encore 16 ans. Rien ne peut faire tomber son opposition. Alors, il se montre au contraire bien déterminé à tout empêcher. Mais la reine s'intéresse vivement aux missions de la Nouvelle-France, écrit, elle, aux vicaires généraux de Bayeux pour les charger d'obtenir le consentement du père. Mais M. Simon de Lompré, le père de Catherine, présente une requête au Parlement de Rouen pour empêcher la communauté des hospitalières de Bayeux de laisser sa fille partir pour la France. Il est terrifié, il a bien raison au fond. Hein. Et Catherine reste inébranlable. M. de Lompré n'en est que plus affligé, car il l'aime, sa fille, plus que tous ses autres enfants. Et au sein de la communauté elle-même, il y a des sœurs qui s'opposent à son départ, il la trouve trop jeune, puis il l'aime beaucoup. Tout en général, et en particulier, ont une grande tendresse pour elle. Elle est d'un beau naturel, elle est de belle humeur, elle a un bon esprit, elle est belle en plus, elle a un beau visage, hein, sous sa coiffe, elle est magnifique, elle est fervente, elle est vertueuse, elle est exemplaire, elle a toutes les qualités. Comment la laisser partir pour le Canada? Alors seule, il y a sa vénérable aïeule qui est religieuse et la fondatrice de la maison. Toutes deux connaissent les voies de Dieu sur Catherine, puis l'encouragent dans son projet. C'est assez surprenant. Et elle est aussi encouragée par M. de Bernès, qui est l'aumônier du monastère. C'est un homme de Dieu. Il a plusieurs fois éprouvé sa vocation pour le Canada, puis il l'a reconnu solide. Elle écrit « Dieu plus tard m'attirait si fortement que je ne pouvais résister à son appel sans une grande infidélité. » C'est ce qu'elle ressentait au fond d'elle-même. Alors devant l'opposition réunie de ses sœurs en religion puis de sa famille, les espérances de la novice semblaient s'évanouir. Et pour mieux toucher le cœur de Dieu, elle lui promet de vivre et de mourir en Canada. S'il lui accorde la grâce d'y aller, et sa prière à son effet, et un jour son père, que le chagrin a rendu malade, veut voir la dernière relation des jésuites, c'est celle de 1647, où est raconté le martyre du père Isaac Jogg, eh bien, il est très touché à cette lecture, puis il est pris soudain d'un mystérieux sommeil, vous savez, comme Saint-Joseph, là. Puis il se sent fortement poussé à donner son consentement au départ de sa fille. Et dans le même temps, bien, Madame de Lompré, qui est absente, a le même pensée que son mari, qui, à son réveil, se trouve tout changé. Alors il appréhendait fort que Dieu ne lui demande compte à l'heure de la mort, de cette résistance, à la volonté justement de Dieu sur son enfant Catherine. Alors il accorde le sacrifice qui lui coûte si cher. Et la nouvelle est apportée au monastère par Madame de Lompré et tous les obstacles se lèvent d'eux-mêmes comme par enchantement, puis les dirigeants de la communauté donnent aussi leur consentement. Avant de continuer, je vous signale que si vous désirez lire l'itinéraire mystique de Catherine de Saint-Augustin, un ouvrage d'un peu plus de 200 pages, il est signé Don Guy Marie Oury, un bénédictin, Oury, O-U-R-Y, un bénédictin de Solesmes, qui a vécu parmi nous très longtemps, qui est encore parmi nous, peut-être à la frontière américaine, chez les bénédictines qui ont été fondées par nos bénédictines de Saint-Eustache. Et alors, ça s'appelle donc l'itinéraire mystique de Catherine de Saint-Augustin, c'est publié chez CLD. Vous pouvez trouver ça dans les librairies catholiques de Montréal, particulièrement chez la librairie des Filles de Saint-Paul, sur la rue Saint-Denis, au sud de Mont-Royal, mais ailleurs aussi, sans doute. Le père Vimont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le père Barthélemy Vimont, qui est à Paris, entend dire que, finalement, Catherine de Saint-Augustin et les autres hospitalières ont l'autorisation de partir pour fonder un hôpital à Québec. Il est prévenu de ça, alors il fixe le départ au 17 avril 1648, pour partir du monastère de Bayeux. Alors l'heure de la séparation arrive, c'est une heure extrêmement douloureuse, et à 16 ans, on ne quitte pas tout ce qu'on a de plus cher au monde, surtout des parents qu'on aime, sans qu'on en pleure un peu. Elle pleure aussi en se séparant d'une communauté à laquelle elle est bien liée, elle tient à cette communauté. Alors elle laisse aussi sa grand-mère, une tante, une cousine germaine et deux sœurs, mais ses larmes n'ébranlent pas du tout sa persévérance. Hein. Puis elle part sous la conduite du père Vimont. Elle fait route avec mère Marianne de l'Assomption, qui vient de Dieppe, qui est destinée, elle aussi, au Canada, en passant par la ville de Vannes, en Bretagne. Les deux hospitalières sont rejointes par une autre compagne, mère Jeanne de Sainte-Agnès. C'est le 4 mai 1648. Elle a ses 16 ans révolus, c'est son anniversaire, alors elle fait sa profession religieuse à Nantes, dans la chapelle de Notre-Dame de toute joie. Notre-Dame de toute joie, c'est un beau titre. Entre les mains du père Vimont, évidemment. De Nantes, où il s'est arrêté, bien le groupe se rend au port de La Rochelle, d'où nos ancêtres partaient, n'est-ce pas? Je vous en ai déjà glissé un mot. On l'attend, là, il y a une flotte qui est commandée par monsieur de Repentigny, le gardeur de Repentigny. Parmi les passagers, on se trouve monsieur Daibou, le nouveau gouverneur de la Nouvelle-France. Il va remplacer M. de Montmagny. Alors, je vous en ai déjà parlé, hein, lundi. Le navire amiral, appelé le Cardinal, part le 31 mai 1648, sous la garde, évidemment, de Notre-Dame. Et dans ce temps-là, la traversée, c'est toute une entreprise, traversée de l'Atlantique, hein, c'est difficile, c'est une chose extrêmement audacieuse. Puis c'est rude aussi, c'est pénible. Cette traversée dure de 2 à 4 mois. Les vaisseaux sont tout petits, c'est étroit, c'est mal aménagé. Puis souvent, bien très souvent, il y a des maladies contagieuses. Alors on vogue heureusement depuis plusieurs jours quand tout à coup, un mal terrible éclate à bord. Une maladie contagieuse, une sorte de fièvre pourprée, comme on dit. Fait de nombreuses victimes. Le commandant de la flotte lui-même est frappé à mort, imaginez. Alors les sœurs hospitalières rivalisent de zèle pour arrêter cette fièvre, le progrès de cette maladie abominable. Alors sœur Catherine se prodigue au service des malades au point de contracter elle-même le mal. Elle se voit près de mourir, elle se recueille en Dieu. Elle est heureuse de lui donner sa vie, si c'est sa très sainte volonté, mais tout à coup, elle a comme une vision. Elle a souvent de ces visions étranges. Je vous mets en garde quand vous lirez la vie de Catherine de Saint-Augustin. C'est un peu curieux, c'est spécial, c'est très spécial. Hein. Elle a des rêves, des visions, des rêves. Elle voit un affreux dragon à ses côtés, la gueule béante comme pour la dévorer. Il a des griffes levées pour la saisir, d'elle qu'elle serait jugée. Un effroi est grand. et dans son rêve, elle pense un instant mourir d'épouvante au spectacle de ses péchés. Elle en reçoit une vue claire et distincte. Ils lui paraissent horribles. Qu'elle se condamne elle-même à l'enfer dans ce moment. Et par bonheur, cette vue, plutôt désespérante, ne dure pas. Et sœur Catherine en est délivrée. Dès qu'elle s'abandonne à tout ce que Dieu ordonnerait d'elle. Mais ce dragon infernal ne la quitte pas. Il se met à lui représenter les infidélités de son passé. Il lui persuade que le désespoir doit nécessairement suivre une vie si coupable. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle raconte ça dans sa vie. « Alors je tournai mon cœur vers Dieu, et je crois que je lui dis ces paroles, « Mon bon Jésus, j'ai toujours espéré en vous, j'espère encore, et je mourrai en paix, dans la confiance qu'à toute éternité, je ne me départirai point de vos saintes volontés. Si vous me damnez, bien, j'en serai contente. » N'oublie pas, elle est toute jeune, elle a 16 ans à peine. Hein? J'en serai contente. Mais mon Dieu, en enfer, je ferai votre sainte volonté. Que c'est charmant, ça prend bien une adolescente toute fervente pour écrire des choses aussi curieuses. Hein? Elle continue, m'adressant ensuite à la Sainte Vierge, je lui dis avec toute la tendresse et la confiance d'un enfant envers sa bonne mère. C'est très curieux, c'est sympathique. Eh bien, Sainte Vierge, il sera donc dit qu'une personne qui a mis toute sa confiance en vous sera damnée? Alors, comme j'achevais ces paroles, je la vis paraître pleine de majesté et de douceur. Le dragon s'enfuit à sa vue. Il me dit alors, c'est un rêve qu'elle fait. Ma fille et ma sœur, tu as touché le cœur de mon fils et le mien. Et si tu veux mourir, ne crains point, le démon ne saurait te nuire. Je suis ici pour te recevoir. Mais on te demande encore pour la terre, alors que veux-tu? Ce que je veux, Sainte Vierge, vous le savez, que la volonté de votre fils et la vôtre soit faite en moi. Et touchant du doigt son mal, la Sainte Vierge la guérit, puis disparaît, laissant son âme comblée de douceur. Alors, c'est une étrange histoire, ce rêve. Alors, son vaisseau, le cardinal, jette l'ancre dans la rade de Québec, le 19 août 1648. Enfin, sœur Catherine escalade le Cap Diamant, l'allégresse au cœur, la montagne, elle escalade cette montagne qu'elle doit illustrer par toute sa vie. Elle entre, enfin, dans ce qu'elle appelle agréablement, elle appelle ça comme ça, le petit paradis de Québec. Samuel de Champlain et les rois de France, en fondant Québec, en 1608, ont rêvé d'en faire la capitale d'une France nouvelle, qui serait porte-lumière de Jésus-Christ dans le Nouveau Monde. Et 40 ans plus tard, en 1648, donc, Québec n'est encore qu'un pauvre bourg, c'est un chef-lieu d'une colonie, petite colonie, au territoire tout de même plus vaste que toute l'Europe, il est vrai, hein? Mais c'est peuplé par moins de 2000 Français qui sont dissimulés à Québec, à Trois-Rivières, à Montréal, puis dans les missions aussi, puis au sein des tribus indiennes. Et la compagnie des 100 associés, à qui les rois de France ont confié les destinées du Canada, mais c'est moins préoccupé de la diffusion de l'Évangile, je vous l'ai dit, nous dit, elle ne s'occupait pas tellement des intérêts véritables de la colonisation, elle s'occupait de quoi? De ses propres intérêts commerciaux. Quelle peste, hein? Et les jésuites se sont particulièrement attachés à ce pays depuis le commencement de la colonie. En 1648, il y a 11 pères qui y travaillent, aidés de 4 frères et de 24 laïcs français qui sont bien dévoués. Ils ont 7 résidences et le père Paul Ragneau est le supérieur de ces missions. C'est lui qui a écrit la vie, là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la vie de la mère Catherine de Saint-Augustin. Ça a été réédité il y a une dizaine d'années, je crois. Non, c'est en 77, ça a été réédité, ça. Et alors donc, on peut se le procurer, je crois, chez les hospitalières à Québec. Ou peut-être dans les librairies. Donc, le père Paul Ragneau est supérieur de ses missions, puis après la mort du père Jogues, on voit surgir, c'est formidable, un mouvement de conversion absolument extraordinaire. Les pères ont la consolation, en 1649, l'année suivante, de baptiser plus de 1300 fidèles, 1300 Amérindiens. et de voir la ferveur de ces nouveaux catholiques s'accroître chaque jour, à ce point que le père Regnault, après avoir fait la visite de toutes les églises huronnes, ce sont les Hurons, hein, il écrit au père Jérôme Lallemand, c'est très émouvant de la part du missionnaire jésuite, « Je n'aurais jamais cru pouvoir voir, après 50 ans de travail, la dixième partie de la piété, de la vertu et de la sainteté dont partout j'ai été témoin dans la visite que j'ai faite des églises. Ces Amérindiens sont admirables, ces Hurons. Alors des missionnaires très courageux y travaillent avec lui. Il y a au premier rang le fondateur de ces missions, c'est le père Jean Brébeuf. Il me touche parce que j'ai fait mes études au collège Brébeuf. Puis, il y a Gabriel Lallemand, puis le père Daniel, puis les pères Chaumonneau, dont j'espère vous parler aussi, puis le père Chabanel, le père Garnier, etc., qui presque tous vont être martyrisés de façon atroce. De leur côté, les sœurs hospitalières, au nombre de 5, avant l'arrivée de sœur Catherine de Saint-Augustin puis ses deux compagnes, ne perdent pas l'occasion, elles, d'instruire les Amérindiens dans leur langue, puis de recueillir les miséreux. Mais elles s'emploient surtout aux soins des malades, des Français, des Indiens, avec une charité qui ne connaît pas de bornes. Elles doivent tenir compte des rigueurs de l'hiver canadien aussi, puis elles ne savent pas tellement comment se prémunir comme aujourd'hui, elles n'ont pas les mêmes méthodes. Hein. Vous savez, dans les vieilles maisons, même l'air passait à travers, entre les fenêtres et les pierres, c'était terrible. Alors elles doivent supporter les privations de toutes sortes. Une nourriture grossière, la vie au milieu des bois, la crainte continuelle de l'Iroquois, et l'isolement affreux de toute civilisation dont elles sont séparées par l'océan. Sœur Catherine et ses deux compagnes sont donc accueillies avec joie et reconnaissance à l'Hôtel Dieu de Québec. Elles aident leur sœur à préparer un nouveau local pour recueillir les nombreux malades dont les vaisseaux sont remplis. La salle de l'hôpital est trop petite d'ailleurs pour les contenir tous. Et ce n'est alors qu'un petit taudis qui ressemble, comme dit l'ancien texte, qui ressemble plutôt à une longue cabane. C'est elle qui écrit ça, Catherine. Un édifice de bois long et étroit qui n'a pas plus de 14 pieds de largeur, fort bas et fort sombre. Alors, dès son arrivée, la jeune sœur Catherine de Saint-Augustin, malgré l'état de sa santé qui était ébranlé par la maladie qu'elle a attrapée à bord du bateau, elle s'est mise à l'œuvre avec ferveur et tout en se dévouant aux emplois ordinaires de l'obéissance, bien, elle s'applique à l'étude des langues amérindiennes. Et après quelques semaines, elle écrit à la supérieure de Bayeux ce petit mot charmant, « Nous sommes enfin arrivés en la terre tant souhaitée, nous n'y sommes pas venus sans peine. Il a fallu livrer de rudes combats pour quitter la France, souffrir de violentes tempêtes sur mer, pour arriver dans le petit paradis de Québec, où maintenant tout est changé en contentement. » Et la supérieure du monastère a un grand esprit de raison, une bonne supérieure. Dieu l'a élevée à la contemplation, il la favorise de grâces extraordinaires. Alors telle est la femme, par ailleurs très active et très réaliste, à qui notre Seigneur confie sœur Catherine de Saint-Augustin son arrivée à Québec. Sœur Catherine s'estime heureuse d'avoir une supérieure aussi exceptionnelle. Sa supérieure, qui s'appelle Mère de Saint-Bonaventure, se réjouit aussi, après l'avoir vue à l'œuvre, de posséder un sujet et d'une perfection qui est hors du commun. D'ailleurs, elle écrit sa joie très vive dans une lettre à la supérieure en France, à Bayeux. Là. Je vous lis un tout petit passage de la lettre. « Elle est tellement douce et charitable que tout le monde en est charmé. Nous l'aimons, et pour sa part, je sens en Dieu des tendresses pour elle que je n'ai jamais ressenties pour personne. » Eh bien, Almélaire des Martyrs vient de s'ouvrir pour la Nouvelle-France. Quand cette jeune hospitalière, Catherine de Saint-Augustin, arrive à Québec, un groupe nombreux d'Iroquois qui a surpris et brûlé le bourg Saint-Joseph. Je vous en ai parlé quand je vous ai parlé des saints martyrs canadiens. Ils ont massacré quantité de Hurons, je pense que c'est 2000, c'est épouvantable. Ils ont martyrisé leur prêtre, leur pasteur, le père Antoine Daniel, et 10 années auparavant, c'était le père Jean Brébeuf qui a eu un jour une vision, une grande vision d'une grande croix qui vient du côté des Iroquois et qui s'étend sur tout le pays des Hurons. Après le père Daniel, il y a les pères de Brébeuf et Lallemand qui sont les premières victimes. Et c'est les 16 et 17 mars de l'année suivante, en 1649, qu'ils meurent. dans des tortures abominables. Et sœur Catherine n'a jamais vu ni connu le père de Brébeuf qui, lors de son arrivée au pays, se trouve très loin, à 300 lieues de Québec. Mais les relations des jésuites, là, puis les récits de tous ces voyages lui ont appris les grandes vertus puis les travaux de père de Brébeuf. Et la relation de sa mort héroïque et sainte la touche vivement. Elle le considère comme un martyr de Jésus-Christ. Elle le prend pour son protecteur au ciel et depuis, elle conserve toujours pour lui un respect et une dévotion toute particulière. Et moi aussi, d'ailleurs, je fais ça aussi. J'ai toujours gardé pour Saint-Jean de Brébeuf quelque chose, je ne sais pas ce qui m'habite. Elle a la consolation de vénérer ses ossements, que c'est beau ça, sont apportés à Québec, et d'emporter même continuellement sur elle une petite parcelle, il n'y a rien de mal à ça, hein, une parcelle de ce temple, de ce tabernacle, de ce missionnaire fantastique, qui portait en lui à ce point la très sainte Trinité qu'il l'a révélée aux Amérindiens, et qu'il est mort par amour pour Dieu, pour cette Trinité qui l'habitait. Alors elle sera engagée, elle, Catherine, dans les voies extraordinaires. Et on sait qu'elle aurait des communications surnaturelles durant les 8 dernières années de sa vie avec Saint-Jean Brébeuf. Mais Dieu lui destine pour directeur, dans un avenir très prochain, l'un des plus grands apôtres de la Nouvelle-France, c'est le père Paul Ragueneau qui va écrire sa vie. Ce missionnaire est alors occupé à soutenir le courage des Hurons qui ont été massacrés, terrorisés. Leurs bourgs sont l'un après l'autre mis à feu et à sang par les Iroquois. Et les 7 et 8 décembre 1649, les pères Garnier et Chabanel du bourg Saint-Jean sont martyrisés. Alors le 28 juillet 1650, le père Ragueneau arrive à Québec avec 400 Hurons. C'est les tristes débris d'une nation autrefois puissante, massacrée par les Iroquois. Pauvre Huron. Le père Ragueneau, à son arrivée à Québec, est nommé supérieur de l'Hôtel-Dieu. Aussi, je me trouvais, dit-il, engagé à prendre la direction de cette épouse de Jésus-Christ, sœur Catherine, qui n'avait pour lors que 18 ans. Dès que son cœur me fut connu, je vis bien que Dieu s'en était rendu le maître. Alors son expérience consommée dans les choses spirituelles le rend particulièrement apte à diriger sœur Catherine. Et celle-ci peut s'estimer heureuse de posséder un tel guide. À l'école des saints, sœur Catherine de Saint-Augustin marche d'un bon pas vers la perfection. Elle se distingue dès ses premières années par son zèle, son dévouement auprès des Indiens. En peu de temps, comme je vous l'ai dit, elle apprend les langues du pays, puis elle fait leur catéchisme. Le 10 octobre 1652, à 20 ans, elle est tout à coup assaillie violemment par deux tentations. C'est une tentation d'impureté et curieuse. Puis l'autre tentation, c'est de retourner en France. Et elle lutte contre ces deux tentations. Elle arrive à les dominer. Elle les domine si bien que malgré que l'épreuve soit terrible, sœur Catherine finalement va se jeter aux pieds du père Ragueneau. Elle lui découvre ces tentations-là comme si elle était la plus criminelle du monde. Elle trouve en lui le guide ferme, bon, dont elle a besoin. Il la rassure, il la console. Puis grâce à la prière, la pénitence, elle s'en sauve. Elle écrit en 1653, 21 ans, « Nous jouissons ici d'une paix et d'une union si grande qu'on ne peut, semble-t-il, rien désirer davantage. Et nous avons une joie très grande de nous voir exiler volontairement ce cher pays pour l'amour de l'amour même. » C'est beau, hein? Pour l'amour de l'amour même. Le deuxième amour, A majuscule, c'est Dieu. Elle écrit « Mon cœur possède une paix et une joie telle que je ne le saurais exprimer. Et plus je vais en avant, plus je connais le bonheur qu'il y a d'être au Canada. Je ne pourrai jamais assez reconnaître les obligations que j'ai à Dieu et aux personnes qui m'y ont obtenu place et aidé à obtenir cette grâce. Mais cependant, la tentation de quitter persiste toujours, alors elle décide d'y mettre fin. Écoutez bien ça, c'est comme ça qu'on met fin à une tentation. Elle prend une résolution énergique. Et le 18 octobre de l'année 1654, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait, en présence du Saint-Sacrement, le vœu de perpétuelle stabilité dans sa patrie d'adoption. Dès l'année 1654, elle n'a que 22 ans. Elle est préposée en qualité de dépositaire. Alors elle remplit cet emploi pendant 9 ans. En 58, 4 ans plus tard, la situation est plus grave. Les Iroquois sont devenus plus insolents que jamais. L'effroi est dans tous les cœurs. Au-dedans, les deux périls non moins redoutables pour le salut des âmes et le commerce des boissons enivrantes dont je vous l'ai longuement parlé lundi en vous parlant du bienheureux François de Montmorency Laval, le premier évêque, puis les atteintes portées à l'autorité religieuse. Alors elle doit, durant une retraite, le matin, qu'elle médite sur Jésus-Christ, enseignant ses disciples, elle se sent extraordinairement touchée puis animée à suivre les exemples de Jésus, surtout à être douce et humble de cœur, puis à accepter de bon cœur les persécutions, les mépris, les humiliations. Alors, elle écrit à un moment donné, « Mon cœur répondait à cela, oui, mon Dieu, c'est votre volonté, je la reçois comme telle, je la veux chérir, je la veux aimer. » Rien ne m'en pourra séparer. Fiat, fiat. Puis, elle entend de la voix de Jésus quelque chose d'absolument remarquable. Sache que souffrant pour les pécheurs, tu me fais aussi grand plaisir que si, au temps de ma passion, et ça c'est très important, tu eusses essuyé avec un linge pur et net les crachats qui couvraient ma face, et qu'avec un baume odoriférant, tu eusses frotté mes plaies et meurtrissures. Et Jésus termine en disant, « Oh, si on savait combien je prise la charité désintéressée, on s'oublierait soi-même pour le salut de son prochain. » Et il ajoute, « Laisse dire et penser de toi ce que l'on voudra. Qu'il te suffise de me chercher en esprit et en vérité. Ne t'étonne pas que la douceur de mon amour se tourne en amertume en toi, car ce n'est que pour te bénir avec plus d'amour. La croix sera ton partage, et la paix possédera ton cœur. » C'est la merveille que va découvrir à nos yeux la vie de Sœur Catherine. Monseigneur de Laval l'appellera d'ailleurs l'ange de son Église. Monseigneur de Laval a dû remettre au 24 août, deux mois après son arrivée, la cérémonie de la confirmation. Et quand elle est confirmée, elle est bouleversée. Monseigneur de Laval connaît le trésor de sainteté que possède l'Hôtel Dieu de Québec. Il tient toujours Sœur Catherine en très haute estime, à cause de sa prudence et de ses autres vertus, des vues surnaturelles qu'elle reçoit sur les choses et les personnes de la colonie. Alors il la consulte, imaginez, l'évêque consulte cette petite jeune sœur. Il la consulte souvent, il lui recommande même les affaires les plus importantes de son diocèse. Alors, elle déploie dans ses emplois beaucoup de qualités naturelles. Elle en possède même quelques-unes d'ordre supérieur. Elle a un esprit facile. Elle est un esprit clair, clairvoyant, qui pénètre vite au fond des affaires les plus importantes. Elle a un jugement excellent, grande prudence. Et ses qualités reçoivent un certain lustre, évidemment, de son éducation puis de son origine. Elle écrit avec une grande facilité, en assez bon français, les nombreux extraits de ses lettres et de son journal que nous avons cités là tout à l'heure, on peut les apprécier, on peut apprécier son style clair, hein? Elle a une grande modestie aussi. Elle est nommée maîtresse et novice à un moment donné, dans les dernières années de sa vie. Elle s'espère aimer des jeunes. Elle est merveilleuse. Et les pauvres colons, par exemple, sont toujours sûrs de trouver en elle l'appui, le secours dont ils ont besoin. C'est la modèle d'hospitalière au chevet des malades. Si elle leur rend tous les soins du corps, elle est mille fois plus préoccupée de celui de leur âme. Elle est une sœur comme on en a peu eu. Au cours de l'année 1665, Sœur Catherine a plusieurs visions du ciel et de la gloire des saints, du bonheur des élus. Elle est totalement donnée à Dieu. Et le carême de 1668 apporte un surcroît de peine à Sœur Catherine. Plus j'approchais de la fête de mon saint directeur céleste, écrit-elle dans son journal peu avant sa mort, plus ma croix fut pesante et crucifiante. Et le 20 avril, Sœur Catherine est prise d'un crachement de sang, comme il dure peu, on y fait guère attention, mais bientôt, elle est saisie de la fièvre et de grandes douleurs à la poitrine, et c'est comme le dernier acte du crucifiement qui commence. Le troisième jour de mai, jour anniversaire de sa naissance, ses douleurs augmentent, et dès lors ses forces déclinent rapidement, et le 7 mai on lui administre les derniers sacrements. Elle les reçoit évidemment avec une grande présence d'esprit. Et sa supérieure, la mère de Saint-Bonaventure, qui est très affligée et ne quitte son chevet que pour aller se prosterner devant Saint-Sacrement. Mais vers le milieu de la nuit suivante, Sœur Catherine de Saint-Augustin éprouve une grande faiblesse. Dès qu'elle a repris ses sens, elle appelle en toute hâte son confesseur, qui avec toute la communauté récite les prières des agonisants. Sœur Catherine entre en extase. Elle est immobile, ses yeux sont fixés au ciel. Elle est captivée, elle voit quelqu'un. Un quart d'heure se passe. Elle semble toujours ravie en Dieu. Et elle dit, j'adore vos divines perfections, ô mon Dieu. Oui, j'adore votre divine justice. Je m'y abandonne de tout mon cœur. Alors on chante, Seigneur, que j'ai mis mon espérance, c'est en vous que j'ai mis mon espérance. Je vous bénirai éternellement. Elle adresse à ses sœurs diverses paroles. Puis, elle se sent revivre. Mais, tout à coup, elle veut la laisser prendre son, elle demande de prendre son repos, puis elle s'endort profondément. On voit qu'elle est morte. Son corps est exposé, tout le monde voulait la voir. Et c'est ainsi que dans le Seigneur, Sœur Catherine de Saint-Augustin, le 8 mai de l'année 1668, est entrée au ciel. Elle a vécu sur la terre 36 ans, dont 20 au Canada, sa patrie d'adoption.